Bon, pour pas changer, une nouvelle fois de plus, l'actualité est lourde. Hein, je sais pas pour vous, mais ouais, faut avoir le courage de se lever, hein, faire les choses. Et puis, en tout cas, c'est quelque chose que Jésus aussi a vécu. Et nous allons parler de Jean chapitre 17, où c'est ces versets, on ne va pas tout lire, hein, mais les versets que l'apôtre nous a transmis sont les prières de Jésus directement adressées au Père. Alors si nous voulons savoir comment Jésus a prié, eh bien nous pouvons nous tourner vers ce chapitre. Voilà ce que nous y lisons, et nous voulons être comme les disciples des auditeurs attentifs. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, d'auprès de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde. Eux sont dans le monde. Et moi, je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Cette prière est appelée prière sacerdotale aussi. Alors, un mot que... Clément d'Alexandrie, père de l'Église début 5e siècle, avait employé pour qualifier ce chapitre, parce qu'il disait que c'est la prière du grand prêtre qui intercédait pour le peuple. Et Jésus est à la place de ce grand prêtre, hein, il est le grand prêtre par excellence, qui intercède pour les disciples et pour nous. Alors on peut être d'accord ou pas avec cette qualification, en tout cas une chose est sûre, c'est que nous sommes d'accord et tous d'accord qu'il s'agit là d'une prière solennelle et importante. Nous sommes à quelques heures de son arrestation et le lendemain, Jésus sera crucifié. Et voilà qu'il invite ses disciples à un entretien avec son Père. Voilà. Si c'est le Seigneur qui appelle, il faut répondre. Alors, voilà, je vous propose trois clés pour ce chapitre. Glorifier, grandir, garder. Glorifier. Dans ces versets que nous avons lus, 6 fois le mot glorifier apparaît. Le mot gloire. Nous disons, glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Je t'ai glorifié au verset 4 sur la terre. Au verset 5, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, même de la gloire que j'avais auprès de toi. Et verset 10, je suis glorifié en eux. Avant d'affronter une épreuve terrible, avant de commencer à combattre pleinement, Jésus avait une préoccupation, celle de glorifier Dieu. Quand Jésus parle avec le Père, il parle de la gloire de Dieu. Je ne sais pas ce que toi tu ressens quand tu dois affronter quelque chose, soit une visite, soit quelque chose d'important. Est-ce que ta préoccupation première est celle de glorifier Dieu? Ça, c'est intéressant de voir comment Jésus va affronter ce qui est devant lui. Voici donc devant les disciples un homme qui est là. Il est venu, il est né dans un peuple, le peuple juif, et il parle d'une gloire, de sa gloire, avant même sa naissance. Alors on pourrait dire que soit cet homme est fou, soit il est possédé, et c'est ce que à son époque les gens disaient, hein. Jean 10, il y eut de nouveau à cause de ses paroles une division parmi les juifs. Plusieurs disaient, d'entre eux disaient, il a un démon, et d'autres, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? Et d'autres ont dit, mais ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Et puis ils ont regardé l'œuvre, et puis ils ont dit, mais un démoniaque ne peut pas ouvrir les yeux. Mon frère, ma sœur, si cet homme dit vrai, alors on a intérêt à l'écouter. Car tout l'avenir éternel de l'humanité, tout l'avenir éternel de chaque homme va dépendre de ce Jésus, si ce Jésus dit vrai. Nicodème avait bien compris, il a dit à Jésus, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus est plus que celui avec qui Dieu est. Il est celui qui est venu nous révéler du ciel ce Dieu avec qui il est un de toute éternité. Il a quitté sa gloire éternelle pour revêtir notre humanité. Et là, Jésus parle de sa gloire. Voilà comment était ma gloire avant que le monde fût. Peut-être que pour nous, c'est juste un rappel théologique. Mais mon frère, ma sœur, si nous n'avons pas ancré en nous cette conviction solide de ce que dit la parole, alors nous avons raison de trembler. D'autres l'ont appelé Christ. Et c'est très curieux, dans ce passage, il se nomme lui-même Jésus-Christ. Celui que tu as envoyé, à savoir Jésus-Christ. Il est l'espérance attendue. Ce monde cherche l'espérance, ce monde cherche un sauveur, ce monde cherche un héros. Il est là, devant nous. Il y a 2000 ans, il est venu, appelé Christ, c'est-à-dire le Messie. Ça veut dire celui que Dieu a désigné pour accomplir ce que tout l'Ancien Testament avait annoncé. Aucun disciple, à ce moment-là, lui dit, tu exagères parce que tu as dit ceci. Alors, quel est le but de ce Christ? Quel est le but de ce nom glorieux? Eh bien, c'est d'être glorifié. Jusqu'à aujourd'hui, l'Église l'appelle Jésus-Christ. Verset 4, il est écrit. Je t'ai glorifié sur la terre et j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Alors parfois on pense que la gloire de Dieu c'est, vous savez, un trône illuminé de gloire avec des séraphins et des anges. C'est vrai. Mais la gloire de Dieu se manifeste aussi par de petites choses. Avant tout, la gloire de Dieu pour nous c'est une disposition intérieure du cœur qui cherche à mettre Dieu en première place. Quand nous faisons ce que la parole nous dit, faites tout sans murmurer ni reproche, ça nous ressemble évidemment, hein. Eh bien, nous participons à glorifier Dieu. Quand l'apôtre nous dit, faites-vous grâce comme Christ vous a fait grâce, eh bien, nous sommes en train de glorifier Dieu. Quand nous sommes fidèles dans les petites choses, nous sommes en train de rendre gloire à Dieu. Parfois, on attend d'accomplir de grandes choses pour dire, voilà comment j'ai rendu gloire à Dieu. Mais en réalité, c'est dans notre quotidien, dans nos journées, dans nos heures que nous pouvons mettre Dieu en première place et ainsi nous le glorifions. Jésus n'a pas cherché sa propre gloire, mais il a recherché la gloire du Père. Il a même dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Comment est-ce qu'on reconnaît un bon arbre ? À ses fruits. Un bon arbre, dit le Seigneur, porte du bon fruit. au mauvais arbre du mauvais fruit. Le chrétien qui cherche à glorifier Dieu produit du bon fruit. Est-ce que c'est une préoccupation dans ta vie que de chercher la gloire de Dieu? Une attitude à ton travail de dire « Seigneur, je veux moi chercher à te mettre en avant ». Est-ce que tes loisirs glorifient Dieu? Est-ce que ton mariage, ton célibat glorifie Dieu? Même quand tu manges et quand tu bois, tu peux glorifier Dieu. En d'autres termes, tout est spirituel. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. La question est courte. La question est claire, la question est précise. Cela glorifie-t-il Dieu? Parfois, on est confronté à des choix de vie. Dois-je faire ceci ou cela? Dois-je... Voilà, et la question est simple. Si je fais ceci ou si je fais cela, est-ce que cela glorifie Dieu? La deuxième clé, le deuxième sujet qu'évoque Jésus dans sa prière au Père, c'est la question de la parole. Et la clé que je vous propose, c'est grandir dans la parole. Nous pouvons lire versets 6 et 8, ceci. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné au milieu du monde. Ils étaient à moi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Verset 8. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils ont reçu. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti d'auprès de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. La parole de Dieu s'est fait entendre depuis Abraham. Abraham a entendu Dieu parler. Il a écouté. Et il a gardé ce que Dieu a dit, et il a transmis. Moïse, de même, il a vu Dieu, une partie de la gloire de Dieu, il a écouté Dieu, il a pris note de ses paroles, et il a transmis. Ainsi, Dieu donne sa parole, fait entendre sa voix, et l'homme reçoit et le transmet. Ils ont entendu une parole qui est sortie de la bouche même de Dieu. Mais par Jésus, eh bien, nous avons quelque chose de plus grand. L'Ancien Testament était insuffisant pour révéler Dieu. Et Jésus nous dit que ce Dieu-là, nous pouvons l'appeler Père. Alors j'ai été assez surpris dans les chapitres où il s'entretient avec ses disciples, Jean 13 jusqu'à Jean 17, le nombre de fois où Jésus emploie le mot Père en parlant de Dieu. 45 fois. Il ne parle que de lui. Je ne sais pas si peut-être vous travaillez ou vous avez côtoyé quelqu'un qui vous parle d'une personne. Eh, il est comme ça, elle est comme ci, etc. Elle vous décrit. Et vous avez juste une hâte de voir cette personne, de voir à quoi elle ressemble. Hein? Et quand vous la voyez, vous dites, ah, je sais beaucoup de choses sur toi. Hein? Et oui. Ainsi, les apôtres qui avaient tellement entendu parler du Père ont eu cette curiosité. Et Philippe a dit un jour à Jésus, alors qu'il était là, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Vous arrivez à lire? C'est bon, vous avez de bons yeux. Hein? Voilà. Cela nous suffit. Tu as parlé du Père. Montre-nous. Qui est-il? Comment est-il? Et Jésus lui dit, mais attends, Philippe, depuis tout ce temps que moi je suis avec vous, tu n'as pas reconnu le Père. En me voyant, tu vois comme est le Père. Alors, il s'agit là d'une connaissance spirituelle. Nous savons qui est le Père parce que Jésus nous l'a révélé. C'est pas parce que nous avons grandi dans une famille chrétienne, même si c'est un privilège. Ce n'est pas parce que nous faisons un rituel ou de bonnes œuvres. Cette rencontre du Père se fait à travers Jésus. En réalité, c'est en voyant Jésus prier, parler et vivre que les apôtres ont compris l'importance de ce Père. Quand ils l'ont vu agir, ils ont reconnu l'autorité du Père, qui est allé jusqu'à ressusciter un mort, délivrer des démoniaques. Lorsqu'ils ont vu Jésus parler et agir, ils ont reconnu l'amour du Père, plus haut que les montagnes, plus profond que les océans. Lorsqu'ils ont entendu l'histoire du fils prodigue, ils ont compris la compassion du Père. Et puis, lorsque Jésus leur a vécu et leur a transmis la notion du pardon, ils ont compris que nous avons un Père qui pardonne. À tel point que c'est à la croix même où Jésus dira « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Malheureusement, aujourd'hui encore, les hommes ne savent pas. Et pire encore, ils pensent rendre un culte à Dieu en exécutant des autres. Jean chapitre 16, verset 2, « On vous tuera pensant rendre un culte à Dieu. » Tout ça, Jésus nous a présenté le Père, tout ça pour que nous puissions avoir accès à la vie éternelle. Regardez la définition que Jésus donne, Jean 17, verset 3. « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Alors, Dieu veut que nous le connaissions. Il veut que nous nous approchions de lui. Il veut, et pour cela, il veut que nous le recevions. Et nous avons une mission. Il lui dira au verset 18, la mission est là, « Je t'ai, comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. » Il y a une chose qui m'attriste énormément parfois, c'est quand je rends visite dans des, vous savez, des établissements de maisons de retraite. Et je vois là, tout un monde qui est à quelques mètres de la ligne d'arrivée ou de départ, selon comme on voit les choses, hein, et qui n'entendent pas Dieu. Et quand j'entends parfois, et c'est normal, je le comprends, des frères et sœurs qui sont aînés dans la foi, qui me disent « Qu'est-ce que je peux faire de plus ?» Mais tu peux être là, prier pour eux, et leur témoigner juste avant la fin, de leur dire « Vous savez ?» Il y a un enjeu spirituel et éternel à saisir. Voilà que c'est ce que dit l'apôtre Paul. Comment donc invoqueront-ils s'ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'ils n'ont pas des prédicateurs? Nous sommes tous appelés à être ce type de prédicateurs. Alors, le troisième point, après glorifier Dieu, après grandir dans sa parole, c'est garder. Un sujet que Jésus aborde, parce que il prie pour ses disciples, afin que ses disciples soient gardés. Pourquoi une prière aussi insistante? Pourquoi est-ce qu'il sort ce thème? Eh bien, il le dit. Garde-les en ton nom. Ce monde est un lieu où quelqu'un règne aussi. On l'appelle le prince de ce monde. Un monde qui a de la haine quand on lui parle d'amour. Un monde qui rejette Dieu quand on présente Dieu. Un monde qui refuse la vérité et qui bidouille ses propres solutions. Le monde est un lieu de combat. C'est la raison pour laquelle il n'y aura jamais de trêve durable dans ce monde. Un lieu de combat contre Dieu qu'il ne voit pas, mais aussi contre les enfants de Dieu que ce monde voit. Dimanche dernier, on a eu le dimanche de l'église persécutée. On n'en parle pas dans les médias. Mais année après année, la situation des enfants de Dieu dans ce monde s'aggrave. Jésus dit au verset 14, « Je leur ai donné ta parole et le monde les a aimés. » Non, les a haïs. Comment est-ce possible? Eh bien, lui-même dit, « Parce qu'ils m'ont haï, parce que moi, je ne suis pas du monde. » Le problème du monde, c'est qu'il combat contre la vérité. Mais l'autre problème du monde, c'est qu'il combat aussi en nous. Nous sommes, nous aussi, confrontés à ce combat par la tentation dans lequel le diable veut nous décourager, enlever la gloire de Dieu, par les échecs et par les dangers que nous vivons. Jésus aurait pu demander au Père, « Père, quand un enfant se convertit, quand un homme se tourne vers toi, enlève-le du monde. » Et nous serions, au fur et à mesure, enlevés après notre conversion. Mais que dit-il? Verset 15, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. » Mon frère, ma sœur, nous aurons dans ce monde toujours de l'adversité. Ne pensons pas que l'adversité va partir parce que nous avons prié pour qu'elle s'en aille ou parce que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Ce malin va nous attaquer de maintes manières, nous tenter, nous aveugler, nous voilà. Il fera tout pour nous éloigner du Père. Jésus dit, je te prie pour les garder du malin. Vous savez, c'est un peu quand on a froid dans une pièce froide qui est chauffée avec une cheminée. Plus on s'approche de la cheminée et plus on a chaud. Plus on s'en éloigne et plus on a froid. Et je me dis parfois que dans nos vies chrétiennes, on s'éloigne un peu de Dieu et on sent qu'il fait froid. Et on a le moral qui baisse. On a, vous savez, moins ce zèle. Il nous suffit de nous rapprocher de cette cheminée. Dieu veut nous garder. Alors comment nous garde-t-il? Eh bien, il nous garde, déjà, il nous garde en nous demandant de garder la parole. C'est-à-dire de garder ses enseignements. Regardez ce qu'il dit à l'église de Philadelphie. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, alors moi aussi, je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je suis gardé quand je garde la parole de Dieu. D'ailleurs, Jésus dira aussi que cette parole est sûre dans le même chapitre 17. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Voilà un secours sûr que nous pouvons avoir. Et puis il y a une autre manière d'être gardé. Nous sommes gardés quand nous vivons l'unité, quand nous vivons l'amour fraternel dans l'Église. Regardez ce que le Seigneur dit à la suite des versets que nous avons lus. « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Moi, je leur ai donné, verset 22, la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Verset 23, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Comment Dieu nous a aimés? Comment nous a-t-il aimés? Comme il a aimé Jésus. Voilà une manière que nous avons d'être gardés en Dieu. Dans sa parole, dans l'unité. Et puis, le mot « un » est utilisé 7 fois, hein, c'est l'unité dans l'amour. L'église locale n'est pas une option. Quand je vois dans le ministère, vous savez, avec Internet, c'est formidable, on a accès à tellement de ressources. Mais quand je vois des chrétiens qui s'isolent et qui vivent leur culte derrière un écran, et je me dis, mais c'est comme si quelqu'un me montrait la photo, voilà, d'un joli personnage, et me disait, c'est mon conjoint ou c'est ma conjointe. Oui, mais c'est du virtuel. Tu ne peux pas vivre l'unité, être gardé dans l'amour, si tu vis la communion avec Dieu à travers un écran. Nous avons besoin de ce rassemblement. Et Dieu sait que l'ennemi attaque cette communion. Parce que c'est un lieu qui rassemble les perdus. Parce que c'est un lieu qui montre comment Dieu nous a sauvés. Et c'est un lieu qui nous permet d'être en sécurité, d'être gardés, afin de ne pas errer. Alors veillons, continuons à veiller les uns sur les autres. Et puis nous sommes gardés, dernier point, nous sommes gardés parce que quand nous restons dans la proximité de Jésus. Lorsque j'étais avec eux, je gardais en ton nom ce que tu m'as donné, je les ai préservés. Sauf un, Judas qui avait déjà décidé de le trahir et dont Jésus connaissait le plan. Le Seigneur nous dit qu'on peut être gardé parce qu'il s'engage à nous préserver. Quelle joie de savoir qu'il est, lui, le bon berger. celui qui prend soin de ses brebis, celui qui va jusqu'à s'abaisser pour récupérer la brebis perdue. Voilà que je pense que les apôtres n'ont pas compris tout ce que Jésus avait à leur dire à travers cette prière. En tout cas, ils ont saisi une chose, c'est que nous avons un modèle aussi de prière. Nous pouvons prier les uns pour les autres afin que Dieu soit glorifié dans ta vie, dans ma vie. Afin que nous puissions grandir dans sa parole et être gardés en lui. Alors voilà que Jésus ajoute ceci, verset 13. Et maintenant je vais à toi et je parle ainsi, afin qu'ils aient en eux ma joie. Vous n'avez pas de bons yeux là? C'est écrit en gros, ma joie parfaite. Je vous propose cette question. Avez-vous la joie parfaite de Jésus? Levez la main celui qui a cette joie parfaite, tous les jours. Oh. Oui, on l'a parce qu'il l'a dit. Mais vivons-nous cette joie parfaite? Ah, je vais te dire quelque chose. Si tu penses que ta joie repose sur des richesses, eh bien, tu finiras par être avare. Si tu penses que ta joie repose sur des appuis, des gens que tu connais, eh bien, tu risques de devenir orgueilleux. Si tu penses que ta joie repose dans tes compétences, eh bien, tu risques de devenir triste. Et si tu penses que ta joie repose sur tes succès, tu risques de devenir cynique. Parce que la richesse, les appuis, les capacités, les succès, un jour finiront par s'amenuiser, disparaître dans ce monde. En revanche, si tu penses que ta joie est dans le Seigneur, alors là, cette joie est parfaite, elle est durable. Et moi, ce que j'aime bien dans ce passage, ce n'est pas, Jésus n'a pas parlé d'une joie parfaite alors que tout allait bien. C'est formidable. Les actualités, tout est beau, tout est merveilleux. Hein, les impôts, il n'y en a plus. Voilà, la retraite, 50 ans, c'est formidable. Hein. Allons-nous attendre ce que le monde propose pour avoir cette joie parfaite? Ou alors allons-nous nous rapprocher de Jésus et dire, Seigneur, nous savons qu'elle est en toi, cette joie. Là où je suis émerveillé, c'est qu'il n'y a dans cette prière aucun reproche fait à ses disciples. Jésus prie pour toi et il prie avec ferveur. Et si tu veux savoir ce qu'il dit, eh bien relis ce chapitre 17. Il est là pour te conduire. Il est là pour que sa joie soit parfaite en toi et en moi. Il y a du travail, hein? Oui, mais elle est là, que nous puissions la vivre pour sa gloire. Amen.